Radio Okapi. Grande interview.
Mesdames et messieurs fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue à ce nouveau numéro de Grande Interview. Nous recevons dans cette émission le rapporteur du Sénat, M. Kaoumba Lofunda Samadikou. Il est auteur du livre « Comprendre Ubuntu ». Vous savez, Ubuntu, c'est une philosophie prônée par Nelson Mandela et Desmond Tutu lors de l'apartheid. Et aujourd'hui, nous allons parler en profondeur de cette philosophie telle que développée par l'auteur de cet ouvrage aujourd'hui pour comprendre qu'est-ce que cette philosophie a apporté notamment à l'Afrique du Sud pour son décollage, mais aussi peut aider à la République démocratique du Congo de se développer au regard de l'Afrique du Sud. Bienvenue à Grande Interview. Dans les 30 prochaines minutes, nous sommes avec vous. Monsieur le rapporteur du Sénat, bonjour.
Bonjour, cher ami.
Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission Grande Interview. Tout de suite, qu'est-ce qui vous a motivé d'écrire sur Ubuntu?
Avant de répondre à votre question, j'aimerais vous remercier de l'intérêt que vous manifestez vis-à-vis de cet ouvrage. C'est un ouvrage que j'ai tenu à publier dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de notre indépendance, autour d'un thème dont tout le monde a déjà beaucoup entendu parler. C'est le concept d'Ubuntu. Lorsque vous avez introduit cette émission, vous avez rappelé le contexte sud-africain et le contexte congolais. La première chose qu'il faut connaître, c'est que Ubuntu n'est pas la propriété d'un seul peuple ici en Afrique. Et lorsque l'ouvrage démarre, l'ouvrage essaie d'expliquer cela. Le concept d'Ubuntu a été rendu universalisé par l'expérience sud-africaine en 1993-1995, lorsqu'il y a eu la constitution des transitions, et que Mgr Desmond Tutu s'est appuyé sur ce concept pour organiser la fondation du nouvel État, de nouveau vouloir vivre ensemble, de nouveaux styles de vie communautaires en Afrique du Sud. Pour ce faire, il s'est référé à des valeurs traditionnelles. Et il s'avère que ces valeurs traditionnelles ne sont pas uniquement des valeurs de la communauté ou des communautés d'Afrique du Sud, ce sont des valeurs de l'ensemble des communautés de l'Afrique noire. Et le travail ici que je publie essaie de montrer comment ces valeurs sont des valeurs de l'ensemble des communautés de l'Afrique noire. C'est ce souci qui m'a animé, n'est-ce pas, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays.
Déjà, à entendre Ubuntu, ça fait allusion à une langue bantoue.
Voilà, il faut justement savoir que le terme Ubuntu, qui rappelle Bomoto, Ubuntu, Bumuntu, eh bien, ça signifie que c'est un terme qui renvoie à une ère culturelle. Oui. C'est l'ère culturelle bantoue. L'ère culturelle bantoue, ça signifie quoi? L'ère culturelle bantoue ne regroupe pas des populations ayant des caractéristiques physiologiques particulières. Donc il ne faut pas dire celui-ci c'est un Muntu parce qu'il a un nez comme ça. Celui-là c'est un Muntu parce qu'il a des oreilles comme comme des champignons. Non, c'est pas ça qui fait de vous un Muntu. Ce qui fait de vous un Muntu, c'est le partage de certaines valeurs. Et le terme Muntu, Moto, c'est un terme qui renvoie à une culture, qui renvoie à un ensemble de langues. Ce sont les linguistes qui ont étudié à partir du 9e siècle, qu'il s'agisse de Blake et d'autres, Guthrie et d'autres qui ont étudié la linguistique, et bien avant cela, il y en avait eu d'autres qui avaient étudié les langues de la région, donc de la partie australe de l'Afrique. Et bien, c'est en étudiant les langues africaines, à travers la linguistique comparative, qu'on se rendra compte qu'il y avait une communauté de pensée, une communauté d'idées, qui fait que quelqu'un qui est en Afrique du Sud, Quand le père de Mountou, il comprend, quelqu'un qui est au Congo central, quelqu'un qui est en Ouganda, donc toute cette terre culturelle qui désigne l'homme par le terme Mountou, Moto, Mountou, donc l'ère culturelle dans laquelle l'homme est désigné par ces termes Mountou, Moto, Mountou, c'est cette ère culturelle qui appartient, qui désigne les peuples bantous. Donc les peuples bantous, ce sont d'abord des peuples qui ont une culture commune et non pas des peuples qui ont des traits morphologiques communs. Donc il ne faut pas dire, celui-là c'est un ilotique, celui-ci c'est un Mountou. Non, non, ce n'est pas ça. On est Mountou, non pas parce qu'on a des longues dents ou des gros yeux ou des cheveux, ceci. On est Mountou parce qu'on appartient à l'ère culturelle bantou.
Alors comment traduisez-vous la vision du monde Ubuntu?
Vous savez, dans le monde actuel, avec la mondialisation telle qu'elle est conduite depuis le 19e siècle jusqu'à ce jour, eh bien, c'est une mondialisation qui a été généralement, globalement conduite par l'Occident, avec les valeurs occidentales. Et sont ces valeurs qui sont conduites par l'Occident, qui sont pratiquement imposées à l'ensemble du monde. Mais il faut savoir que nous aussi, nous avons nos valeurs. Les valeurs de générosité, les valeurs de réciprocité, les valeurs d'unité, les valeurs de famille et de solidarité. Si nous voulons aller de l'avant, nous devons partir de nos valeurs, parce que nos valeurs, ce sont des valeurs humaines. De même que les valeurs telles qu'elles ont été célébrées dans d'autres continents, des libertés et tout ça, ces valeurs ont des équivalents chez nous. C'est dans le cadre du dialogue des valeurs que nous pouvons construire la rencontre des cultures et la compréhension entre les cultures. On vient ici, on veut nous imposer ceci parce qu'on estime que c'est une valeur universelle. Quand on regarde, c'est d'abord une valeur occidentale. Nous disons, ces valeurs qu'on veut nous imposer doivent entrer en dialogue avec nos valeurs. Comment est-ce que nous considérons la solidarité chez nous? Comment nous considérons la femme chez nous? On veut nous faire croire, ou on nous dit que les femmes chez nous, on les écrase, n'ont pas de liberté, n'ont pas d'autonomie. Est-ce que vous trouvez normal que tout un continent estime qu'une femme mariée ne peut pas porter le nom de son nom? Est-ce que vous trouvez ça normal?
Non.
Vous avez des papiers dans les aéroports, on met nom de jeune fille. Pour les femmes mariées, on met nom de jeune fille. Pourquoi mettre nom de jeune fille? Chez nous, ça n'a pas de sens. Parce que la femme, quand elle se marie, elle continue de porter son nom. Le code de la famille est clair là-dessus. La femme mariée conserve, on ne dit pas prendre, conserve son nom, auquel elle peut éventuellement ajouter celui de son mari. Ce sont des éléments comme ça qui nous permettent de relativiser certaines pratiques et de dire, nous entrons dans une nouvelle dynamique, une dynamique de la réconciliation. Quand vous avez affaire à un système politique qui a écrasé un peuple, qui l'a réifié, qui l'a considéré comme des choses, mais lorsque ce peuple se réveille, reprend la commande, ce peuple doit-il détruire ce qu'il avait asservi? Alors, on dit attention. On ne peut pas mettre fin à l'anthropophagie en mangeant les anthropophages. Vous arrivez, vous trouvez des gens qui en mangent d'autres, vous dites, nous allons mettre fin à ça et vous les mangez. Vous devenez comme eux. Donc, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez mettre fin. Donc, comment le dire autrement? Il faut éviter que la haine puisse avoir une éternité. La haine ne peut pas être éternelle. Donc, il y a des valeurs comme ça. Les valeurs du pardon, les valeurs de la parole donnée, les valeurs non pas de l'oubli comme tel, quand on dit il y a l'amnésie ou l'amnistie. Non, bon, l'anamnèse, ça signifie on pardonne, mais on rappelle le passé afin que cela ne puisse pas se répéter. Nous sommes dans un processus d'anamnèse qui nous permet d'avoir la mémoire, mais la mémoire ne doit pas nous empêcher d'organiser de vivre ensemble. Vous savez, il y a un exemple assez banal. Chez nous, dans la tradition, vous êtes des enfants, vous jouez avec des pierres, et puis vous lancez une pierre sur un de vos copains. Vous lui perforez, donc vous lui crèvez l'œil. Bon, on fait comment? Dans la Bible, l'Ancien Testament, on vous dit dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Mais dans nos traditions à nous, non? Vous avez crevé l'œil de votre camarade pendant les jeux, eh bien, on ne va pas aller crever un deuxième œil dans la communauté. Bon, ce qu'on fait, on vient dans votre famille, on regarde parmi vos sœurs, là, les plus belles, on les lui donne en mariage. Il prend en mariage une de vos sœurs, comme ça les familles sont réconciliées pour toujours.
Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ces numéros le rapporteur du Sénat, M. Kaoumba Lufunda, auteur du livre « Comprendre Ubuntu ». Alors, M. le rapporteur, parlons maintenant de l'expérience sud-africaine. Pour bien aider nos auditeurs à comprendre vraiment le concept Ubuntu, dans quel contexte politique, par exemple, Nelson Mandela et Desmond Tutu ont développé Ubuntu?
Bon, il faut savoir que le contexte de l'apartheid, c'est un contexte totalement exécrable. Un groupe humain décide d'en asservir un deuxième au motif que, parce qu'il est de telle race, donc il peut écraser une autre race. Et organise toute une philosophie, toute une politique autour de ce concept-là. Cette exploitation, cet asservissement, cet avilissement, lorsque l'autre groupe qui était écrasé décide de prendre le pouvoir politique pour changer les choses, ce groupe dit, nous n'allons pas organiser des représailles. Parce que si vous organisez les représailles, vous allez entrer dans un cercle de vengeance, dans une escalade de vengeance. On ne va pas organiser les représailles, on va organiser la réconciliation, on va se mettre ensemble, construire le pays ensemble, mais pour ce faire, il faut une politique de la mémoire, il faut une politique de la parole, il faut une politique de la justice, une justice qui répare et qui restaure. Une parole qui a de la valeur, ça signifie que vous donnez votre parole, que plus jamais vous ne reviendrez là-dessus. C'est pourquoi quand vous avez donné votre parole, il faut y tenir, il faut tenir à votre parole, il faut respecter votre parole pour pouvoir aller de l'avant. Ça, ce sont des valeurs, parce que dans le concept d'Ubuntu, je suis parce que nous sommes, je ne suis pas seul au monde. Nous sommes comme sur une toile d'araignée. Vous pouvez être chef sur cette toile d'araignée, mais si on détache la toile quelque part, vous aussi, le chef, vous tombez. Vous pouvez être, un serviteur ou je ne sais pas, vous avez quelle activité. La toile d'araignée doit avoir l'équilibre d'ensemble. C'est pourquoi nous rappelons la base qui est chez le père Tempels, qui a bien thématisé la philosophie bantoue. Le sens de la réparation, le sens de l'accroissement de la force vitale. Nous sommes forts parce que nous sommes forts ensemble. C'est parce que nous travaillons ensemble. C'est parce que noir et blanc, nous nous mettons ensemble. C'est parce que telle tribu et telle autre, nous nous mettons ensemble. Ce n'est pas en nous séparant que nous deviendrons forts. L'humanité, le sens de l'humain, c'est Bomoto. Vous savez, quand on dit, il y a une chanson qui rappelle, qu'est-ce qu'on dit encore? Oui. Donc, vous êtes en train d'aller comme ça, comme quelqu'un qui est totalement aveuglé. Mais qu'est-ce qui vous aveugle? Attention, regardez un peu derrière, afin que vous redeveniez véritablement un homme. Redevenir véritablement un homme. Ne pas être comme une chaise, Kintu, je ne sais pas, comme n'importe quoi. Redevenir véritablement un homme, c'est ce à quoi nous aspirons. Donc, redevenir un homme, c'est éviter d'asservir d'autres hommes. Et ça, c'est fondamental dans cette expérience sud-africaine.
Alors, dites-nous, professeur, comment les Sud-Africains ont arrivé, avec l'aide de Desmond Tutu, à mettre vraiment en œuvre Ubuntu pour la vérité et la réconciliation? Desmond Parce qu'au Congo, nous avons essayé apparemment
Desmond la vérité Tutu, et la réconciliation. C'est un évêque, ouais. N'est-ce pas? C'est un évêque anglican. Lorsqu'il mobilise le concept d'Ubuntu, il rentre vers nos valeurs traditionnelles à nous. qu'il va mettre en dialogue avec les valeurs chrétiennes et d'autres valeurs universelles. Il revient d'abord vers nos valeurs traditionnelles. Ça signifie qu'il va développer une théologie à partir du concept d'Ubuntu, comme on développe une philosophie, une politique, une sociologie de la réconciliation à partir du concept d'Ubuntu. Le problème ici chez nous, est-ce que nous parvenons dans des approches politiques, est-ce que nous parvenons à développer des théologies appropriées? Est-ce que nous ne sommes pas, depuis autant d'années dans notre pays, dans une crise non seulement politique? On a essayé d'avancer pour éviter des crises politiques en organisant des élections. Mais peut-être que la véritable crise serait d'ordre spirituel. Vous ne pouvez pas, quand vous vous présentez comme un chef ecclésiastique et que vous aidez la communauté à aller de l'avant, mais à Saint-Luc on dit... Vous êtes un serviteur inutile dans ce lieu. Vous êtes un serviteur inutile. Ce n'est pas vous qui avez fait le travail. Qui a fait le travail? C'est Dieu. Mais si vous commencez à vous mettre devant tout le monde pour dire, grâce à moi, moi je suis évêque, moi je suis ceci, je suis un ecclésiastique, c'est moi qui ai réalisé le travail. Donc, vous ne vous définissez plus par rapport aux paramètres évangéliques. Vous auriez dû vous considérer comme un serviteur inutile. Et ce concept de serviteur inutile, est-ce qu'il est mis en valeur? Est-ce que Desmond Tutu est allé s'autoproclamer partout? Grâce à moi, la nation arc-en-ciel a été bâtie. Non, c'est l'œuvre de tous. Tous ceux qui ont accepté d'adhérer au processus de vérité et réconciliation, c'est leur œuvre. Ce n'est pas l'œuvre de celui à qui on a donné la charge d'organiser ce processus. Oubliez qu'on est des serviteurs inutiles. C'est très grave pour une nation. À ce moment-là, ça signifie qu'on n'a plus de valeur spirituelle.
Il y a 2 semaines, nous avons tous célébré Mandela Days, qui fait directement allusion d'ailleurs à Ubuntu. Dites-nous, professeur, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon des actes concrets de Mandela par rapport à cette philosophie de Ubuntu?
Non, il faut savoir que Mandela est devenu grand parce qu'il a transcendé... tous les problèmes d'asservissement. Le fait de rester humain envers et contre tout dans une civilisation qui a prôné la vengeance. C'est pourquoi il faut chaque fois revenir vers la tradition chez nous. Comment on résolvait les problèmes chez nous? Est-ce qu'on les résolvait en raccourcissant les gens, en leur tranchant la tête, en leur coupant les oreilles? Dès que vous allez dans une logique de vengeance, vous dites, tel groupe ne pourra plus jamais faire ça. Telle population n'aura plus jamais droit à ça. Mais alors, vous cherchez la réconciliation ou bien vous cherchez autre chose. Nous devons rassembler tous les peuples pour pouvoir aller de l'avant. Et quand vous avez eu la tâche de rassembler, vous devez vous effacer. Vous devenez un serviteur inutile. Vous aidez la population à aller de l'avant. Les politiciens s'organisent sur base des valeurs qui sont partagées avec toute la communauté, parce que c'est cela que nous retrouvons dans nos contes, dans nos traditions, et qui nous a permis d'aller de l'avant. Si nous lisons l'histoire de nos différents peuples, chaque fois que les gens se sont vengés, ils se sont dispersés. Tel s'est vengé contre tel, il y a eu dispersion. Mais lorsqu'on a mis fin à la vengeance, les gens se sont retrouvés... ensemble.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi et nous chutons déjà avec ce numéro. Grande interview reçoit le professeur Kaumba Lufunda. Il est rapporteur du Sénat et auteur du livre Comprendre Ubuntu. Alors professeur, parlons un peu du management de Ubuntu en République démocratique du Congo. Vous savez bien, l'histoire de notre pays révèle beaucoup de pages d'ombre, des sécessions, des rébellions, des cas de viol qui font que des communautés entières sont vraiment blessées. Comment nous pouvons matérialiser Ubuntu en République démocratique du Congo pour promouvoir un esprit communautaire dans l'entreprise?
Bon, ça signifie que ce qui a été fait en Afrique du Sud, on a vu la matérialisation dans une théologie de la réconciliation. dans une politique qui permet à toute la communauté d'être ensemble. On est allé, les gestionnaires des entreprises, comment ils peuvent gérer leur communauté en étant centrés sur l'homme et non pas sur les produits et sur la matière. Comment ils peuvent aller ensemble comme dans les travaux communautaires jadis. On pouvait dire, nous allons au champ, aujourd'hui nous travaillons d'abord dans le champ des tels, ça nous permet de potentialiser le rendement et puis demain on va travailler ailleurs. Le sens même du l'ikelemba tel qu'on a fait dans nos communautés, on met les ressources ensemble pour permettre à quelqu'un d'aller de l'avant et puis on remettra les mêmes ressources au profit de quelqu'un d'autre. Donc, même dans la gestion et de la famille et des entreprises et des projets, si vous intériorisez ça, vous n'allez pas prendre l'argent public pour le dissiper pour vous-même et laisser tous les autres membres de la communauté sans argent. Aujourd'hui, on se plaint, on dit, voilà, il y en a qui sont mieux payés que d'autres. Arrêtez, bon. On a l'impression qu'ils sont mieux payés que d'autres, parce qu'il y en a plusieurs autres qui sont mal payés. Si la rémunération était équitablement répartie, ceux qui sont actuellement moins bien payés ne seraient pas amenés à aller dépendre de ceux qui sont, entre guillemets, mieux payés. Voilà. Chacun aurait de quoi vivre selon ses conditions. Donc, nous devons travailler dans la création des richesses, créer les richesses pour tout le pays, créer les richesses pour toute la communauté, mais c'est en créer aussi pour soi-même. Les dirigeants créent aussi des richesses pour eux-mêmes lorsqu'ils créent des richesses pour la communauté. Si les dirigeants créent des richesses uniquement pour eux-mêmes, ils seront assaillis par la communauté.
Donc, en quelque sorte, il faut développer une justice distributive.
Il faut la justice distributive. La justice distributive, ça ne signifie pas qu'il faut appauvrir les uns au bénéfice des autres. Il faut appauvrir la communauté. Et alors, à ce moment-là, ceux qui peuvent avoir plus pourront jouir du plus sans empêcher les autres d'avoir de quoi vivre décemment. Donc, il faut toujours cette vie de qualité. Cette vie de dignité qu'on doit, n'est-ce pas, sauvegarder dans la communauté. Vous rencontrerez même ici à Kinshasa des jeunes gens qui vous disent, bon, atasogi naza na moto kate, mais nga naza moto. Non, il renvoie sa fierté à sa dignité et non pas à l'acquisition de tel ou tel bien extérieur. Le sens de cette fierté, c'est très important. À une certaine période, j'avais publié un ouvrage intitulé « Fier d'être Congolais ». La fierté ne dépend pas des autres, ça dépend d'abord de nous-mêmes et de notre manière de nous comporter. C'est ça qui nous permettra d'aller de l'avant.
Alors, dans votre ouvrage, vous avez parlé de Mzé Laurent-Désiré Kabila, qui a fait une révolution accompagnée du pardon. Comment vous expliquez cela?
La révolution pardon, justement, Mzé Laurent-Désiré Kabila a dit « On ne peut pas... Puisque nous disons que l'ancien régime était méchant, nous ne pouvons pas, à notre tour, devenir méchants. Il ne faut pas reproduire la méchanceté d'un régime que vous décriez. Vous dites tel régime doit céder place à un nouveau régime. Il ne faut pas reproduire ce que l'ancien régime faisait. Alors on dit, on ne va pas tuer les anciens. On leur accorde le pardon et avec eux, nous allons de l'avant. Vous savez, c'est un concept très important qui nous a permis de rester unis et de renforcer la cohésion au sein de notre pays. Ce concept de révolution, pardon. Et vous verrez lors de la passation de pouvoir entre le Raïs Kabila et le président Tshisekedi, on a insisté sur cette cohésion, on a insisté sur cette réconciliation et le peuple a pu participer, assister pour la première fois à une scène où un nouveau président issu de l'opposition, qui regardait avec colère et hargne le sortant, l'embrassait avec joie. Et le sortant, qui lui aussi lui prenait des positions pour défendre tel régime, a embrassé le président entrant. C'est un moment fort. Ce moment fort, il faudrait peut-être le relire en tenant compte des pourparlers qui avaient eu lieu avant les élections. Avant les élections, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des pourparlers à Ibiza, il y a eu des pourparlers à tel endroit. Du vivant de feu Étienne Tshisekedi, ces pourparlers ont eu lieu. Et dans les pourparlers, il y avait déjà une volonté de travailler ensemble. Mais travailler ensemble, comment de... Nous sommes prêts à aller ensemble pour gérer le pays, mais en passant par, par les élections. C'est pourquoi vous verrez que le président Tshisekedi, parmi plusieurs opposants, fut l'un des rares à dire, quelles que soient les conditions, moi je vais aller aux élections. Parce que déjà du vivant de feu Étienne Tshisekedi, il y avait eu cette flamme de dire, les autres qui sont au pouvoir sont nos frères, nous devons aller travailler ensemble avec eux, en passant par les élections. Eh bien, les deux groupes antagonistes sont passés par les élections. Et finalement, ils ont fait quoi? Ils ont décidé de travailler ensemble. Il peut y avoir des conflits. Les conflits, la vie politique est polémique, comme on dit. Les conflits ne peuvent pas disparaître. Mais on ne peut pas résoudre les conflits par l'élimination d'un groupe. Donc, les conflits, on doit les gérer de manière à permettre à l'ensemble de la communauté d'aller de l'avant.
La toute dernière question, monsieur le professeur. Les derniers événements, la dernière tension politique nous fait voir combien cette nation demeure encore fragile, quand bien même les deux leaders ont fait preuve de réconciliation, mais on sent que les cœurs de certaines communautés, de certaines personnes demeurent chargées, peut-être parce qu'il n'y a jamais eu cette vérité et réconciliation. Vous vous rappelez que dans les manifestations pour revendiquer les élections, il y a eu des cas de décès dont les familles sont restées orphelines jusqu'à aujourd'hui. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, il est plus que jamais opportun d'organiser une table ronde des réconciliations telle qu'avait proposé la société civile pour que des vérités soient dites et qu'on pense les blessures, qu'on dédommage les victimes et qu'on ouvre une nouvelle page de l'histoire. Parce que la réconciliation ne pourrait pas seulement résider sur le plan politique, mais elle doit être une réconciliation nationale.
La réconciliation, ce n'est pas le travail d'un jour. Nous pouvons aujourd'hui aller à une table ronde de réconciliation et puis le lendemain, chacun rentre avec son couteau au fourreau, tout ça.
Donc,
ça va pas.
Donc,
nous devons nous rééduquer d'abord. C'est un travail d'éducation civique qui doit se faire au quotidien. Quand les politiciens se rentrent dedans, on doit dire, attention, il y a une limite, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Vous ne pouvez pas passer à la violence physique, vous ne pouvez pas faire ceci. Il y a des lignes que nous ne devons pas franchir. Petit à petit, les politiciens réapprennent à dialoguer en permanence. Ça signifie qu'il y a des structures, il y a des plateformes qui existent pour permettre ce dialogue. La société civile, elle est là pour rappeler les politiciens à l'ordre, mais il ne faut pas oublier que c'est toujours des instances des groupes particuliers. La société civile sont des instances des groupes particuliers avec des intérêts particuliers. Tant que certains de ces intérêts seront gérés par des gens qui ne veulent pas que nous, on s'entende. Alors là, nous sommes partis pour la gloire. Parce qu'il y a des membres de la société civile qui sont complètement engagés dans un processus de reconstruction du vivre ensemble, d'autres qui sont totalement engagés dans un processus de destruction de la nation. D'où l'importance d'une certaine vigilance lorsqu'on parle de la société civile. Il ne faut pas croire que être membre de la société civile, c'est être neutre. Non, ce n'est pas ça. Il y a un engagement dans un sens ou dans un autre. Et il peut y avoir parfois même des engagements contre les intérêts de la nation. Nous devons rester à l'écoute, mais demeurer vigilants.
Professeur Kaoumba Lufunda, je rappelle que vous êtes rapporteur du Sénat et auteur du livre « Comprendre Ubuntu ». Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Le dialogue que nous venons d'entamer s'inscrit justement dans le processus d'Ubuntu parce que l'homme, c'est un homme qui est vulnérable et individuellement et du point de vue communautaire, nous sommes vulnérables. Nous devons nous renforcer, comme le disait le père Timpels, et individuellement et en communauté pour faire face à toutes les menaces qui assaille notre pays. Pour une fois, merci beaucoup.
Merci. Fin des grandes interviews sur Radio Okapi. Cette émission vous a été présentée avec le concours de Alain Irung Skelinkouté sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Michel Kifindangoy vous l'a présenté. Merci de rester fidèle à Radio Okapi. Rendez-vous pour un nouveau numéro samedi prochain, 10h05 à la fréquence de la paix. Au revoir.